Et à l'occasion de la Journée internationale du volontariat, le 5 décembre, et de la projection sur la chaîne télévisée SBS de Surgery Ship, un documentaire en 8 parties, déjà diffusé à partir du 27 novembre, nous avons l'occasion d'avoir en ligne le chirurgien professeur Christophe Bernet, l'un des volontaires des navires Mercy. Docteur, bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes de SBS en français.
Bonjour.
Alors avant toute chose, vous avez une sacrée carrière. Vous êtes chirurgien spécialisé dans la célioscopie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?
La célioscopie, en fait, c'est ce qu'on appelle la chirurgie des petits trous. Donc, c'est les chirurgies qui sont faites dans l'abdomen, hein, donc sous le diaphragme, où on met un ou deux ou trois, ce qu'on appelle en anglais des ports, sites, et qui permettent en fait de faire une opération à travers des petites incisions de 5 à 10 mm de diamètre pour pouvoir enlever une vésicule biliaire et l'appendix. Et en fait, ce qui se passe, ça a été révolutionné en fait il y a une trentaine d'années par un chirurgien français qui s'appelait M. Mouret, qui était un gynécologue, qui a eu l'idée un jour d'enlever la vésicule biliaire à une femme qui avait un problème gynécologique, et ça a bouleversé complètement la chirurgie d'aujourd'hui. Donc en fait, depuis, on fait de plus en plus de chirurgie des petits trous, célioscopiques ou laparoscopiques, et je fais moi-même de la chirurgie donc colorectale, de l'intestin haut, upper GI, et aussi de la hernie.
Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes franco-suisse, installé depuis environ une vingtaine d'années en Australie. Vous êtes passionné de voyage, globe-trotteur depuis vos 16 ans. Vous avez étudié la médecine tropicale, pratiquée en Afrique et dans d'autres pays du monde. Comment ces passions pour la médecine et les voyages ont commencé ?
Alors, la passion pour le voyage et surtout pour l'Afrique noire, en fait, revient très longtemps. Dans les années 60, je suis né dans les années 60, et un de mes oncles suisse a vécu en fait 12 ans en Afrique noire, dans un pays qui est le Bénin aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque le Dahomey. Et il était ingénieur agronome, et il a travaillé là-bas pendant 12 ans, à la fin de la colonisation, et il y avait des gens qui partaient pour transmettre leur savoir auprès des populations locales. Et je me rappelle de mon oncle qui revenait chaque année à Noël, en hiver, en Suisse, sous la neige, avec ses histoires, ses totems, ses bibelots, ses statues africaines. Et j'étais complètement fasciné par ce monde-là. Et je crois que c'est parti de là. La passion pour la médecine, en fait, vient probablement de mon père, qui était en fait neurochirurgien à Genève, en Suisse. J'ai toujours été impressionné par certaines des histoires, par les photos que je regardais quand il préparait des exposés. Et j'avais une fascination par rapport à d'être humain, par rapport aux pathologies abdominales, par rapport au cerveau, et ainsi de suite. Et si vous voulez, le besoin, le désir d'aider l'autre, en fait. Je pense que pour être un bon médecin, il faut être altruiste, il faut être humaniste. Mon père était très, très humaniste. Il est décédé là, il y a 3 ans. Et c'est un grand humaniste, et j'ai beaucoup appris de lui. Et en plus de ça, la chirurgie, c'est particulier, c'est très technique, et j'ai toujours été relativement habile de mes mains, et pour moi, arriver à utiliser ma dextérité manuelle dans une profession médicale était absolument parfaite. Donc j'ai toujours voulu toute ma vie faire de la médecine et faire de la chirurgie. Et c'est une passion qui est venue, je dirais, lorsque j'avais à peu près 12-13 ans.
Vous avez été parmi les volontaires du Mercy Ship. Racontez-nous l'aventure. Qu'est-ce que le Mercy Ship ? Où est-ce que vous allez ? Qui est-ce que vous soignez ?
Le Mercy Ship est en fait, si vous voulez, le plus grand hôpital flottant de charité au monde. C'est déployé surtout en Afrique de l'Ouest. Et ce Mercy Ship existe depuis à peu près une trentaine d'années, je crois même 35 ans. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que, si je ne m'abuse, le concept, en fait, est parti de Suisse, avec un Américain et une famille de banquiers suisses riches qui ont décidé de faire quelque chose pour aider les gens démunis dans le monde et surtout en Afrique noire. Si vous voulez, j'ai entendu parler du Mercy Ship il y a déjà plusieurs années en arrière, jusqu'au jour où en fait j'ai été contacté par ces gens-là en Australie et j'ai fait petit à petit mon chemin pour pouvoir aider les gens les plus défavorisés au monde. Il faut savoir qu'en Afrique noire, encore aujourd'hui, les gens meurent de faim, meurent de maladies infantiles graves, de malaria, de malnutrition. Et les maladies les plus simples sont souvent mortelles, comme l'appendicite, par exemple. Donc, en fait, pour moi, de partir et en fait être capable de créer une différence par rapport aux plus démunis était une chose importante qui me touchait énormément en tant qu'humanitaire. Alors que dans le fond, travaillant depuis 20 ans en tant que chirurgien à Sydney, que je sois là ou pas, finalement, ça ne change pas grand-chose, puisque nous sommes, il y a une pléthore presque de chirurgicales dans ce pays. Il y aura bientôt un deuxième bateau, d'ailleurs, qui va bientôt partir sur l'océan Indien et l'océan Atlantique. C'est un bateau qui, en fait, nous n'opérons pas, si vous voulez, en pleine mer. C'est un bateau qui accoste dans un port d'un pays, donc souvent l'Afrique occidentale, comme je l'ai dit avant. Alors, par exemple, il y a eu le Congo belge, il y a eu le Cameroun, j'étais au Bénin moi-même juste avant. Actuellement, ils sont en Guinée et le bateau après la Guinée ira au Sénégal. C'est très bien organisé. C'est un bateau qui part d'un pays à l'autre. Les papiers officiels pour être acceptés par le pays accueillant sont importants. Donc, tout cela est fait, si vous voulez, derrière la scène. Et le bateau arrive dans un bon port, comme à Cotonou, par exemple, au Bénin. Et là, il va rester environ 8 mois. Et pendant cette période-là, pendant que le bateau reste 8 mois, vous aurez un groupe de personnes qui vont être dépêchées dans le pays suivant, par exemple la Guinée, et qui vont faire du travail de fond pour retrouver, pour trouver les personnes à travers les provinces du pays, à travers les villages, pour venir justement retrouver le bateau pour avoir des opérations. C'est un système très, très, très bien agencé, assez complexe, avec beaucoup de skills particulières. Et il y a des gens qui se déplacent dans ces pays pour retrouver des personnes avec des pathologies très particulières, puisqu'on ne peut pas tout opérer, malheureusement, pour les amener sur le bateau. Il faut imaginer que les gens qui viennent font des marches souvent de plusieurs jours, voire plusieurs semaines à pied, pour venir jusqu'au port, pour pouvoir avoir une consultation médicale avant une possible opération.
Est-ce que vous pouvez partager avec nous un ou deux souvenirs que vous avez avec le Mercy Ship qui vous ont particulièrement frappé?
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui vivent une souffrance presque quotidienne. Pour qui on ne pense pas au passé, à l'avenir, on pense au quotidien et avoir à manger, avoir à manger chaque jour pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Donc, ces gens qui vivent dans des conditions assez dures, et ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, par rapport à ces gens-là, c'est que ce sont les opérations que l'on fait. Parce que là-bas, sur le bateau, nous ne faisons pas de stéréoscopie ou de chirurgie de pétrole parce qu'il n'y a pas les moyens. Nous faisons la chirurgie ouverte, qui est donc beaucoup plus délabrante, plus douloureuse. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point ces gens-là, non seulement sont extrêmement reconnaissants, mais ne se plaignent absolument pas de douleur. Mais vraiment, c'est une différence flagrante entre les patients que nous traitons en Occident, en Europe, tout comme en Australie, qui auront, quand on demande la douleur ou leur douleur entre 0 et 10, souvent vous diront 7, 8 post-opératoires après une stéréoscopie. Et ces gens-là, sur le bateau, vous voyez qu'ils ont douleur, qu'ils ont une crispation, et leur réponse, c'est 2, 3, et encore. Donc, c'est cette acceptation de la douleur qui est incroyable. Ce respect de l'homme qui vient les aider et quelque part qui me dérange un peu des fois, c'est cette soumission qu'il peut y avoir par rapport à l'homme blanc qui vient aider le noir. Et ça, c'est une chose que je n'aime pas beaucoup, mais qui hélas est vraie, c'est que ce bateau, en fait, il n'y a que des chirurgiens et des anesthésistes et des médecins et des blancs qui travaillent sur ce bateau. Et cette impression là, que l'Européen va venir sauver ces gens. Et si vous voulez, ce déséquilibre qui existe, que le ressort des fois chez les patients, est une chose qui est un peu dérangeante parce que les gens qui auraient tous les moyens, s'ils le pouvaient, d'avoir leurs propres spécialistes dans leur propre pays et dans leurs propres hôpitaux. Mais vraiment, ce qui a plus marqué, c'est à quel point ces gens-là sont stoïques, ne demandent rien, ne se plaignent pas, vous remercient pour tout ce qui a été fait pour eux et sans la moindre plainte de douleur. Et la deuxième chose qui est par contre beaucoup plus douloureuse, et ça c'est sûr, c'est que sur toutes ces personnes qui viennent vous voir. Donc, quand le bateau arrive dans un port, vous avez pendant à peu près 3 à 4 semaines, ou voire plus, des gens qui vont venir. Donc, c'est des queues énormes de centaines et centaines de personnes qui viennent pour se faire voir. Et donc, le bateau va voir, les officiels du bateau, les nurses, les médecins vont voir à peu près 15 000 personnes, 18 000 personnes en 3 à 5 semaines, je crois. Donc, c'est un chiffre énorme. Et sur ce nombre, il y a certaines personnes qu'on ne pourra pas opérer, simplement parce que c'est le cas désespéré, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et je crois que ça, c'est la chose que j'ai trouvée la plus difficile, c'est dire non à quelqu'un. Sachant que si cette personne se présentait dans un hôpital aux urgences en France, en Suisse, à Sydney, en Australie, cette personne aurait un traitement qui prend la sauverait, enfin, la plupart du temps. Alors que là-bas, non, on ne peut pas. Et souvent, ces gens repartent avec leurs enfants, avec leurs problèmes, avec leurs cancers, avec leurs malformations, leurs déformités, comme on dit en anglais, et il n'y a rien à faire. Et ce qui est très important à ce moment-là, c'est de leur rendre ces gens qui sont très croyants, qui ont une foi très forte, et c'est très touchant et impressionnant de voir ces personnes accepter leur sort et mettre leur vie à travers les mains de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très fort et très touchant et assez, sur les moments, assez bouleversant.
Et alors, aujourd'hui, vous continuez à soigner en voyageant et vous exercez indépendamment.
Oui, alors exactement. Donc, je suis chirurgien indépendant à Sydney. J'ai mon cabinet médical avec mes secrétaires. Donc, je travaille assez chargé, très occupé. Je travaille aussi à un hôpital public universitaire où je fais beaucoup d'éducation pour les chirurgiens en formation. Et à côté de ça, je fais pas mal de voyages humanitaires. Donc, je fais l'Afrique, je vais avec le Mercy Ships et mon prochain voyage sera au Sénégal. Mais je fais aussi du travail humanitaire dans le Pacifique Sud. Je reviens là des îles Solomon où nous sommes partis opérer avec un collègue chirurgien à moi et deux anesthésistes, une cinquantaine de patients en 4 jours. Et je reviens après, retrouver ma routine locale. Je pars l'année prochaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée, opéré au milieu de nulle part. Encore une fois, et là, il y a des où les gens n'ont rien et c'est l'impression de pouvoir faire un changement colossal. Donc, je continue à faire ça et j'essaie de jongler entre ces trois différents aspects de ma profession qui sont donc privés, publics, universitaires et humanitaires.
Et en 20 ans de carrière à peu près, voire plus, qu'est-ce qui vous alerte sur la santé de l'homme?
Alors, avec ces années, ce qui me fait le plus souci par rapport à travers l'homme, c'est, je ne vais pas parler politique et écologie, mais surtout ici en Australie, par exemple, j'ai la même chose au Mexique, aux États-Unis, en Asie, en Chine aujourd'hui même. C'est le problème de l'obésité qui est vraiment très grave. C'est une épidémie qui est gravissime, qui touche beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup d'enfants, qui sont des challenges de plus en plus difficiles pour nous, chirurgiens, pour traiter ces personnes, parce que les risques que nous prenons pour eux sont énormes. Ces gens-là, souvent, ne comprennent pas, ne se rendent pas compte, mais les soins sont de plus en plus chers. J'ai l'impression qu'on est en train d'arriver contre un mur où, en fait, les besoins qu'il faudrait générer pour pouvoir offrir encore plus aux patients deviennent de plus en plus amoindris par la crise économique mondiale chronique que l'on vit et les gens qui deviennent de plus en plus vieux avec de plus en plus de comorbidités à cause de leur obésité, comme par exemple le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, ainsi de suite. Donc, ce qui me fait peur, c'est de voir une certaine forme de déchéance humaine en Occident. Et c'est ça qui est particulier. Alors que quand je voyais en Afrique, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne voit pas ça. La plupart des gens qui survivent, parce que beaucoup de gens meurent jeunes, sont des gens qui sont beaucoup plus sains physiquement, parce qu'ils ont probablement une alimentation meilleure, plus équilibrée. Et c'est assez paradoxal quelque part.
Docteur Bernet, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette petite discussion avec vous. Merci.
Et vous pouvez regarder les séries documentaires de Surgery Ship tous les mardis à partir de 21h40 sur SBS TV.